Bienvenue à tous, il est 6h sur Europe 1.
Sa motivation, elle est électorale. En tout cas, il sera bien obligé d'entendre la réalité du terrain et on compte bien s'exprimer assez clairement, assez fermement là-dessus.
Emmanuel Macron sera à Montpellier aujourd'hui et les syndicats de police l'attendent de pied ferme. À un an de la présidentielle, le chef de l'État défendra sa politique de sécurité du quotidien. Dans ce journal aussi, la petite Mia et sa mère ont été retrouvées en Suisse dans un squat. L'inquiétude des personnes obèses de moins de 50 ans, grandes oubliées de la vaccination contre le Covid. Et puis les derniers préparatifs de Thomas Pesquet, le futur commandant s'envolera jeudi pour la Station Spatiale Internationale.
À suivre la page des sports. Et puis mon invité inattendu sera ce matin une infirmière inattendue. Elle raconte son métier de soignante, sans concession et avec une bonne dose d'autodérision. Une infirmière qui est devenue humoriste et qui attend de retourner sur scène après avoir été en première ligne face au Covid. Rendez-vous avec elle à 6h15. À tout de suite.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Emmanuel Macron se rend donc à Montpellier aujourd'hui, un déplacement sur le thème de la sécurité. Dans un entretien accordé au journal Le Figaro, le chef de l'État s'étend sur la délinquance, le trafic de drogue ou encore l'insécurité, les nouvelles priorités du gouvernement pour la fin du quinquennat. À un an de l'élection présidentielle, Claudia Bertram, Emmanuel Macron tente de réinvestir les thèmes régaliens.
Oui, et notamment celui de la sécurité du quotidien qui avait été affiché par l'exécutif comme l'une des priorités pour la fin du quinquennat. À Montpellier, Emmanuel Macron va échanger avec des forces de l'ordre. Ce sera l'occasion d'aborder des sujets comme la prévention de la délinquance et le lien police-population, précise l'Élysée. Les syndicats de police comptent faire part de leurs difficultés au chef de l'État. Écoutez Bruno Bartosetti, secrétaire national SGP Police, chargé de la zone sud, joint par Yasmina Katou.
Aujourd'hui, on a un problème en matière de sécurité sur notre territoire. Ce qui est important, c'est que au moment où on rencontre le président de la République, on peut s'exprimer et on peut développer justement de manière réelle des difficultés qu'on rencontre. Si sa motivation, elle est électorale, en tout cas, il sera bien obligé d'entendre la réalité du terrain et on compte bien s'exprimer assez clairement, assez fermement là-dessus.
D'après une étude récente, la sécurité fait partie des thèmes qui compteront le plus dans le choix des électeurs pour la présidentielle de 2022. Le président veut donc mettre en avant sa politique en la matière, alors que la droite et le Rassemblement national sont à l'offensive sur ce sujet et tirent à boulet rouge sur l'action du chef de l'État.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
Et avant l'arrivée d'Emmanuel Macron à Montpellier, le maire de la ville, Mickaël Delafosse, sera donc mon invité dans 40 minutes, tout à l'heure à 6h40. On en vient au dénouement dans l'affaire Mia. La petite fille a été retrouvée saine et sauve avec sa mère dans un squat en Suisse.
Mais dans la commune de Sainte-Croix, 5 jours après sa disparition, un squat où vit une communauté autonome. Alors Nicolas Feldman, qu'est-ce qui a pu faire choisir cet endroit à la mère de Mia ?
Avant tout la discrétion qu'il offre pour le collectif qui définit cette usine désaffectée comme une ZAB, une zone à bâtir. Ce qui est sacré, c'est ce côté refuge. Refuge loin de la société de consommation, décroissance, rejet de toute forme d'autorité. Toutes ces valeurs sont partagées par la mère de Mia. Mais c'est aussi et surtout un lieu ouvert à tous, comme le raconte ce proche du collectif.
La philosophie de l'état d'esprit, c'est que ce genre de projet est ouvert. Toute personne est la bienvenue qui souhaite prendre du recul, y séjourner un moment. Et dans ce contexte-là, je ne vois pas comment il aurait été possible qu'il refuse l'accueil à une personne qui est là avec son enfant.
Alors la mère de Mia a-t-elle pu bénéficier de complicité dans le collectif ? Cette femme qui connaît bien ses membres en doute.
Ce ne sont pas des gens qui sont du genre à demander les papiers aux personnes qui passent. Ce sont des gens très responsables. Je ne peux pas imaginer qu'ils aient pu faire quelque chose de répressible de n'importe quelle façon.
Contactés hier, les responsables du collectif n'ont pas répondu, mais certains cités dans la presse locale l'affirment. Vivant loin des médias, ils ignoraient que Mia et sa mère étaient recherchés.
Nicolas Feldman et 5 hommes ont été mis en examen dans cette affaire pour le rapt de Mia. 4 d'entre eux sont derrière les barreaux. Un accident dramatique hier en Seine-et-Marne. Un avion de tourisme s'est écrasé dans un champ au nord de Meaux. 4 personnes ont été tuées. Une enquête judiciaire pour homicide involontaire est ouverte.
Près de 13 millions de Français ont reçu une première injection de vaccin contre le Covid. C'est presque 20% de la population.
Oui, désormais, toutes les personnes de plus de 60 ans peuvent se faire vacciner. Même chose pour les plus de 50 ans qui ont des comorbidités. L'obésité en fait partie. Mais comment faire pour les personnes de moins de 50 ans qui en souffrent ? Rien n'est encore prévu pour elles. Et pourtant, Victor Delande, elles sont tout aussi vulnérables face au Covid.
Oui, il y a environ 3,5 millions de Français de moins de 50 ans qui souffrent d'obésité. C'est le cas d'Alina Constantin, 45 ans. Depuis des mois, elle sort très peu de chez elle pour ne pas attraper le virus. Elle a essayé de se faire prescrire le vaccin auprès de son médecin traitant, mais rien à faire. Et aujourd'hui, elle ne comprend pas pourquoi les personnes obèses ne sont pas prioritaires dans la campagne de vaccination.
Dans les services de réanimation, on est engorgé par des personnes qui arrivent avec forte obésité ou obésité ou surpoids, qui sont de plus en plus jeunes. Donc la réalité, elle est là. Elle fait peur et puis c'est pas normal. On n'est pas des citoyens de deuxième classe.
Certaines personnes obèses de moins de 50 ans sont même obligées de ruser pour se faire vacciner. Une incohérence que souligne Agnès Morin, cofondatrice de la Ligue contre l'obésité.
Il y a des inégalités sur le territoire. Tenez-vous bien que ce week-end, l'ARS Grand Est et le préfet ont demandé d'ouvrir un centre de vaccination dédié aux patients souffrant d'obésité à partir de 18 ans. Ce qui signifie qu'aujourd'hui, lorsqu'on habite à Strasbourg, on peut se faire vacciner si on a 20 ans et pas ailleurs sur le territoire.
Elle réclame d'urgence la vaccination pour toutes les personnes obèses sans critères d'âge et avance un chiffre pour insister sur l'urgence de la situation. Près de 40 000 personnes souffrant d'obésité sont mortes du Covid depuis le début de la crise.
Les explications de Victor Dolande.
Europe 1. À suivre dans votre journal de 6 heures, des véhicules prudents capables d'analyser les conditions de circulation pour les comportements des automobilistes.
Et puis l'heure est aux vérifications pour Thomas Pesquet à 3 jours de son décollage pour l'ISS.
A tout de suite sur Europe 1, 6h06.
Europe Matin, le 5-7, Sébastien Krebs.
Il est 6h08, la suite de votre journal avec Sophie Echen.
Prévenir les risques d'accidents de la route grâce à l'intelligence artificielle, c'est l'objectif d'un programme qui rassemble l'expertise de 3 entreprises françaises. La qualité des routes, les conditions de trafic, mais aussi les comportements des conducteurs pourront être analysés en temps réel, Aurélien Fleurot.
Oui, et c'est grâce à la collaboration de 3 PME ultra compétitives, chacune dans leur domaine. Yogoco, spécialisée dans la communication de données entre les véhicules et l'infrastructure routière. Mila Group, qui fait circuler des navettes autonomes sur route ouverte jusqu'à 50 km/h. Et Nexiad, qui est reconnue mondialement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Une combinaison pour anticiper au mieux, explique Gérard Yayaoui, le président de Nexiad.
On pourrait imaginer un véhicule qui ralentit automatiquement avant une priorité à droite, etc., etc. Ce qui n'empêche pas le conducteur de rester le conducteur. Pour l'instant, on ne parle pas de niveau d'autonomie complète, mais d'avoir une assistance complète. Et le véhicule prend les attitudes de prudence parce qu'il y a une zone école. Et donc, on arrive à la vitesse adaptée à une réaction normale d'un conducteur.
Il s'agit d'une initiative inédite venue de 3 entreprises qui ont pu croiser leur expertise au sein du pôle de compétitivité Next Move. Et puis, autre nouveauté, ce système intègre un volet juridique. Ces données captées en temps réel permettent de prouver quel a été le niveau de prudence du véhicule et donc du conducteur, ce qui intéresse beaucoup les constructeurs, mais aussi les assureurs.
Aurélien Fleurot, et en parallèle au Texas, 2 hommes sont morts dans l'accident d'une Tesla qui roulait apparemment sans conducteur. Le véhicule roulait à vive allure et s'est écrasé contre un arbre.
Et puis Thomas Pesquet, futur commandant, hein, Pesquet s'apprête à partir, ça y est, pour la Station Spatiale Internationale.
Il décollera jeudi depuis le site de Cap Canaveral en Floride et il commandera l'ISS pendant 6 mois. Mais avant cela, Thomas Pesquet est en quarantaine jusqu'à son envol et actuellement l'heure d'Autriche, l'heure est aux dernières vérifications.
Oui, vérifier que le scaphandre fonctionne, scaphandre qu'il utilisera pour ses sorties dans l'espace. Vérifier aussi la procédure de vol. Dans cette fusée SpaceX, Thomas Pesquet sera assis à droite et la capsule sans aucun bouton se commande uniquement avec 3 écrans tactiles. Thomas Pesquet est en quarantaine jusqu'au moment de monter dans la fusée pour ne pas risquer d'emporter des microbes sur la station spatiale et il fait toujours quelques heures de sport chaque jour, raconte son collègue l'astronaute italien Luca Parmitano, qui s'entraîne avec lui.
J'étais à la gym de la NASA avec lui. Il est en pleine forme. Il continue à s'entraîner avec son équipage. Pour l'entraînement, maintenant, c'est un entraînement très simple. C'est un rafraîchissement de procédures. Mais surtout, je dirais qu'il est très heureux. Il est prêt.
En plus de sa famille, Thomas Pesquet a la possibilité d'inviter 80 personnes pour assister à son décollage. Personnes qui sont en train d'arriver en ce moment aux États-Unis.
Lors d'Autriche, et puis peut-être l'exploit tout à l'heure, pour la première fois, un petit hélicoptère va tenter de voler sur Mars pendant 40 secondes. Un défi de taille, l'air martien étant bien moins dense que l'air terrien.
Ah oui, cette opération qui avait été repoussée la semaine dernière.
Celle-là même.
C'est assez fascinant, on va suivre ça. C'était le journal de Sophie Echen sur Europe 1, il est 6h11. Lénaïque Monnier pour le journal des sports et on commence par cet énorme pavé lancé par un certain nombre de clubs européens. Une nouvelle compétition a vu le jour cette nuit.
Voilà, elle est officiellement lancée. C'est un séisme qui secoue le foot européen. C'est la Super League, 12 grands clubs, dont le Real Madrid, le Barça, la Juventus, Liverpool ou encore les deux Manchester, qui ont officialisé cette épreuve privée, fermée. C'est une déclaration de guerre à l'UEFA qui bannira de son côté les équipes dissidentes. Parmi les grands d'Europe, le Paris Saint-Germain et le Bayern boudent cette nouvelle compétition pour le moment.
Une Super League qui pourrait aussi voir le jour chez les dames.
C'est déjà dans les cartons. En attendant, hier, c'est bien cette bonne vieille Ligue des Champions qui était au programme avec des Parisiennes qualifiées pour les demi-finales. Mais l'exploit tient surtout au fait qu'elles ont gagné à Lyon 5 fois couronnées dans la compétition. L'entraîneur des Parisiennes, Olivier Chouafny, est fier de son équipe.
C'est une grande performance des filles. Il faut les féliciter. Pourtant, tout n'a pas été aussi simple que ça avec ce début de rencontre qui a été très compliqué. Et finalement, elles ont eu beaucoup de force de caractère pour revenir dans le match avec brio à tous les niveaux. Et je pense que la qualification est finalement vraiment méritée au vu des deux matchs.
L'entraîneur du PSG féminin, Olivier Chouafny, avec Maxime Schoch. En demi-finale, les Parisiennes rencontreront le Barça.
En Ligue 1, le suspense continue. Hein. Rien n'est joué à 5 journées de la fin.
Lyon a bien tenu le choc hier soir en clôture de la 33e journée en battant Nantes 2-1 avec un doublé de Depay. Les Lyonnais reviennent à 3 longueurs du leader Lille. Mais être au pied du podium, ce n'est pas suffisant pour l'entraîneur lyonnais, Rudy Garcia.
Pour l'instant, on a la plus mauvaise place. Même si, effectivement, je crois que c'est assez inédit d'avoir autant de points après 33 journées et de ne pas être sur le podium. Mais voilà, c'est comme ça. Je trouve que je l'ai dit. Ce championnat est passionnant, excitant. C'est bien dommage qu'on n'ait pas du monde dans les tribunes. Mais c'est l'un des grands championnats européens à regarder en ce moment. On va faire un peu de publicité pour notre Ligue 1.
Rudy Garcia avec Loïc Folliot. Suspense garanti jusqu'à la fin puisque les 4 premiers de la Ligue 1 se tiennent en 3 points. Pour Nantes, en revanche, là, rien ne va plus. Les Canaries scotchés à l'avant-dernière place du championnat depuis le mois de mars.
Et puis en tennis, Roland Garros jouera avec Roger Federer cette année.
Oui, si tout va bien, hein, le Suisse aux 20 titres du Grand Chelem a repris après plus d'un an d'absence et il a annoncé qu'il serait bien là. Porte d'Auteuil à la grande satisfaction de Patrice Agelauer, ex-entraîneur notamment d'Yannick Noah.
C'est un immense plaisir hein, qu'il fait à tout le public français. Et je pense que, vous savez, ça doit être aussi très très agréable pour lui hein, de se retrouver à nouveau ici à Roland-Garros parce qu'il adore ce tournoi. Il aime bien l'ambiance, il aime bien le public, il sait que le public français l'adore. Donc c'est un peu l'idéal comme préparation pour Wimbledon.
Le retour de Roger Federer, absent hein, l'année dernière à Roland-Garros, c'était Patrice Agelauer interrogé par Cyril de la Morinerie.
Lénaïque Monnier pour le journal des sports. Merci à vous, il est 6h14. Europe 1. Il y a un an, mon invité inattendu était en première ligne contre le Covid parmi les soignants des urgences de l'hôpital de Toulouse. Mais elle a une particularité, c'est qu'elle raconte son quotidien dans un spectacle et dans des sketchs. Bonjour.
Bonjour, bonjour, je suis Caroline Estrémo, je suis infirmière aux urgences et humoriste.
Bonjour et bienvenue à vous Caroline Estrémo, vous allez nous raconter comment ce quotidien d'infirmière vous a inspiré, vous a poussé à écrire des sketchs avec évidemment beaucoup d'autodérision. A tout de suite sur Europe 1.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Il est 6h16, mon invitée inattendue ce matin est infirmière aux urgences de l'hôpital de Toulouse et elle a fait de son quotidien des vidéos, un livre et même un spectacle d'humour. Caroline Estrémo, alors pourquoi avoir voulu faire de cette expérience de soignante des sketchs? C'est une manière d'évacuer, il vaut mieux en rire?
Oui, je pense que c'est certain, oui. Je dirais que c'est un réflexe de soignant de toute façon, avec ce qu'on vit au quotidien, ce qu'on voit, on a besoin de dédramatiser et d'en rire. C'est ce qui se passe, hein. On le fait assez naturellement entre nous. Sauf que moi, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas ne le faire carrément sur scène et le montrer à tout le monde.
Ce sont des remarques ou des blagues que vous faisiez entre vous en salle de repos, entre infirmières, que vous racontez dans ces vidéos sur Internet et dans ce spectacle?
Il y a un peu de tout, c'est-à-dire qu'il va y avoir de mon quotidien au moment où je le vis, bah, je vais me filmer et le montrer. Et puis après, il y a bien sûr des anecdotes que beaucoup d'infirmières ont vécues. D'ailleurs, beaucoup de personnes soignantes se retrouvent en disant, ah moi aussi je l'ai vécu, ça c'était terrible. Il y a un petit panel, mais je pense que beaucoup de soignants s'y retrouvent, malheureusement.
De la même façon, quand on s'en parle aux infirmières, tu sais, c'est super stylé dans les séries américaines, avec leur tenue cintrée, colorée, et leur stéthoscope autour du cou. Toi, en France, infirmière, tu t'amuses à mettre un stéto autour du cou, mais on te plaque au sol direct.
Alors vous avez eu des millions de vues sur Internet grâce à vos vidéos. Comment ça a commencé?
Alors j'ai entendu une chronique de Anne Romanoff qui rendait hommage aux soignants. Ça m'a beaucoup plu et je me suis dit, bah tiens, moi aussi je vais raconter un petit peu notre quotidien dans une vidéo. Mais à la base, ça part d'une vidéo simple que je balance sur Facebook en me disant, entre collègues, on va regarder ça et puis on se marrera. Et sauf que ça fait le buzz. Et du coup, bah, ça entraîne des propositions, on me propose d'écrire un livre, hashtag infirmière, on me dit, bah tiens, écris un spectacle, et je fais, ok. Et voilà comment ça démarre.
Et le spectacle s'appelle Infirmière, sa mère. Alors ça date d'avant le Covid, hein, ça date de 2017, en tout cas le début de ce spectacle. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en train de le modifier, de l'adapter, après avoir vécu cette pandémie?
Non, je fais référence un petit peu au Covid au début, là, pour détendre un petit peu l'atmosphère, si je puis dire. Mais après, j'ai choisi de ne pas en parler, parce que je pense qu'on subit assez le Covid tous, là, depuis un moment, et c'est un petit peu relou. Donc du coup, non, j'en parle pas, parce que je pense que les soignants, ils galèrent assez au quotidien, donc... C'est pas la peine de souligner, de rappeler ce qu'on vit, puisqu'ils le savent très bien, donc on part carrément sur autre chose.
De quoi vous parlez dans ce spectacle, du coup?
En fait, je raconte comment je suis arrivée déjà dans ce métier, parce que moi, à la base, j'étais prédestinée à être avocate, en tout cas, c'est ce que mes parents m'avaient dit, tiens, ce serait bien, fais ça. Et donc, je suis en fac de droit, et en fait, je réalise que c'est pas du tout ça que je veux faire comme métier, et que moi, bah, tout simplement, je veux aider les gens. C'est un petit peu cliché, mais c'est pour ça que je change. Et en fait, je raconte le décalage entre ce que j'avais en tête, tous mes espoirs, et puis quand on arrive sur le terrain et qu'on dit « Ah ok, c'est pas ce qui était prévu, c'est pas ce qui se passe dans les séries américaines, grosse arnaque ». Donc du coup, je parle de ça, je parle de mon statut quand j'étais étudiante, et ensuite, bien sûr, quand j'arrive aux urgences, où là, on est clairement très très loin de Grey's Anatomy, avec toutes les jolies anecdotes que nous connaissons dans ce beau métier.
Vous parlez des étudiants, malgré la crise sanitaire, malgré la difficulté d'exercer ce métier aujourd'hui, le métier d'infirmière reste attractif. D'ailleurs, pour la troisième année, les écoles d'infirmiers sont la filière la plus demandée par les lycéens sur Parcoursup. Comment vous expliquez ça? Comment vous voyez ça?
Bah déjà, je trouve que c'est rassurant parce que ça veut dire que les gens veulent continuer d'aider les autres, de les soigner malgré la situation compliquée pour tout le monde. Et ensuite, bah, ça m'étonne pas parce que c'est quand même attractif comme métier. Je pense que tout le monde sait que c'est difficile, mais ça reste un métier qui est dynamique, où on s'ennuie pas. Là, c'est clair que c'est le cas. Moi, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, mais c'est rassurant. Ça veut dire que malgré tout ce qu'on dit, malgré toutes les grèves, bah, les jeunes, ils baissent pas les bras, ils disent « Ok, on y va ». Donc ça, c'est plutôt cool.
Comment on rit de tout ça? Allez, faites-nous peut-être une petite anecdote pour terminer.
Pourquoi on rit de tout ça?
Comment on rit de
choses graves? On rit de tout ça, des choses graves, quand on a quelqu'un qui arrive paniqué aux urgences en disant « je suis en train de m'étouffer, j'ai les doigts bleus » et tout le monde panique et on rentre clairement dans le délire du patient. Et puis une fois qu'on est posé, on se rend compte que simplement le monsieur avait un jean neuf bleu et qu'il avait mis les mains dans les poches. Et là, on rigole très très fort. Avant, je soignais directement dans les services et maintenant, j'aime à penser que je soigne d'une autre façon avec l'humour.
Voilà, vous avez quitté l'hôpital, mais vous y étiez au moment de la première vague, vous y êtes retourné pour donner un coup de main au moment de la première vague. Le spectacle s'appelle donc Infirmière, sa mère. On attendra que les théâtres rouvrent pour vous voir sur scène. Caroline Estremo, merci beaucoup d'avoir été l'invité inattendu d'Europe 1. Bonne journée.
Bonne journée.
Europe 1. Sébastien Krebs.
6h21, la petite Mia retrouvée 5 jours après son kidnapping. Sa mère s'était installée avec elle dans un squat en Suisse. 5 hommes ont été mis en examen pour enlèvement en bande organisée. 4 d'entre eux placés en détention. Dans un entretien au Figaro, Emmanuel Macron déclare vouloir lancer un grand débat national sur la consommation de drogue. Le chef de l'État repart à l'offensive sur la question des sécurités. On y revient à 6h30. Puis Washington avertit Moscou qu'il y aura des conséquences si Alexei Navalny meurt. L'opposant numéro 1 au pouvoir russe est en grève de la faim dans son pénitencier et son état de santé se serait nettement dégradé. Riders on the Storm, les Doors, Jim Morrison dans la partition d'Omblin Roche. À suivre, à tout de suite.
Europe 1.
Il est 6h23 sur Europe 1, c'est l'heure de la partition avec Omblin Roche. Chaque matin, l'histoire derrière un artiste ou un album, et c'est l'histoire d'un album ce matin, le dernier des Doors, LA Woman, sorti il y a 50 ans. Omblin, c'est le chant du cygne de Jim Morrison.
Et oui, au début de la décennie 70, Sébastien, la mort guette Jimi Hendrix d'abord, dont le corps sans vie est retrouvé dans un appartement londonien. Janis Joplin ensuite, victime d'une overdose dans une chambre d'hôtel de Los Angeles. Jim Morrison, 27 ans, comme ses deux compagnons d'infortune, semble attendre son tour, dépressif, barbu, bedonnant, parfois incontrôlable. Il n'a rien gardé de son allure de sex-symbole du rock. Dans un dernier souffle, il s'apprête donc à enregistrer son plus grand chef-d'œuvre avec The Doors.
L'album n'est pas encore en chantier et ça s'annonce mal à cause notamment des dépendances de Jim Morrison et aussi de ses ennuis judiciaires.
Ajoutez à ça le producteur de longue date des Doors, Paul Rothschild, qui claque la porte. Les nouvelles chansons que proposent Jim Morrison et le guitariste Robbie Krieger ne sont rien d'autre pour lui que de la musique pour cocktail.
Les Doors se retrouvent seuls, mais paradoxalement, ce départ a un effet libérateur.
Le gardien de prison était parti, dira Robbie Krieger. C'est l'une des raisons pour lesquelles nous nous sommes tellement amusés. The car's hissed by my window,
like the waves down on the beach. Pour les Doors, l'époque de la rigueur studio est révolue. Ils s'installent là où ils avaient pris l'habitude de répéter.
Sur Santa Monica Boulevard, à Los Angeles, là où leur musique s'est infiltrée dans les murs, LA Woman est un retour aux sources, à la fois musical et spirituel, un retour au blues, comme notre premier album, selon le batteur John Densmore. Brut et simple, il y a des erreurs, ce qui rend les pistes plus authentiques et magnétiques, une musique prise sur l'instant. Jim Morrison chante dans la salle de bain qui n'a plus de porte.
Et au cours d'une session, les Doors s'amusent à jouer un célèbre morceau country western de la fin des années 40.
Mais de manière nettement moins galopante, Ghost Riders in the Sky, Cowboy Legend est balancé dans un décor sombre et fantasmagorique. On est loin de la chevauchée face au soleil couchant. La pluie, le tonnerre et les notes de l'orgue électrique de Ray Manzarek qui ruissellent. Même le scénario est lugubre. Jim Morrison raconte l'histoire de cet autostoppeur tueur en série en Californie en 1950. Riders on the Storm est sa dernière trace d'enregistrement avec les Doors. Riders on the Storm. Riders on the Storm. Into this house we're born. Like a dog without a bone and packed her out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man.
Le monumental Riders on the Storm des Doors, c'est l'album LA Woman sorti il y a pile 50 ans, c'était le 19 avril 1971.
Et Jim Morrison s'envolera pour Paris avant même la fin du mixage du disque. Il ne reviendra pas, il décédera le 3 juillet 1971, donc 3 mois plus tard.
Allez, une petite dernière goutte, comme ça vite fait. Omblin Roche, chaque matin à 6h20. C'est pas mal, c'est bien pour démarrer la semaine, hein, ce que vous nous avez fait ce matin-là. Ouais, c'est parfait, merci, à demain.
Merci.
Laurent Cabrol, on démarre la semaine dans la douceur.
Voilà, dans la douceur. Et vous parliez de gouttes, si j'avais l'enchaînement idiot, je dirais que nous n'avons pas, nous, la dernière goutte. Il y en a encore quelques-unes aujourd'hui, notamment sur le massif alpin. Alors, nous aurons quand même un temps assez agité, avec des orages, avec des giboulées, et peut-être un petit peu de neige à partir de 1500 mètres. Et puis, nous aurons aussi aujourd'hui des nuages sans excès quand même, hein, sur le nord, la Champagne-Ardenne, la Lorraine, l'Alsace et la Bourgogne. Mais dans l'ensemble, disons-le, c'est une journée plutôt calme, plutôt sympathique, plutôt douce, même si ce matin, il y a encore quelques gelées en Sologne, à Beauvais, à Ambérieu, à Luxeuil, etc. Mais dans l'ensemble, les températures maximales de la journée vont se situer entre 15 et 20 degrés, avec 17 à Paris, 18 à Nantes, 19 à Toulouse, vous voyez que ça monte bien. Et les températures du matin, je ne vous ai pas donné la fourchette, actuellement, entre 2 et 8 degrés. Donc il fait bien froid quand même ce matin, en dépit de rien, 2 à 8, c'est pas chaud. Et puis 15 à 20 degrés, je m'en étouffe, c'est 15 et 20 degrés, ce sont vraiment des températures douces. Donc voilà ce qui nous attend pour aujourd'hui. C'est plutôt une journée sympa. Je vous parlerai de la semaine tout à l'heure. Allez, elle sera sèche. Ça, c'est déjà une première information. Elle sera sèche. C'est déjà ça.
À tout à l'heure, juste avant 7h.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Tout de suite, votre journal. Bonjour François Geffrier.
Bonjour à toutes et à tous.
6h30 sur Europe 1.
Quand même en contact des enfants sans cesse. Donc le fait de reprendre la classe vaccinée, ça nous rassure carrément.
Il l'espérait, ça y est, c'est fait. La première injection de vaccin pour des enseignants à une semaine de la rentrée scolaire, de quoi aborder plus sereinement les cours en présentiel jusqu'à la fin de l'année. La gauche réunie autour d'une table ce week-end, une photo de famille presque au complet, mais on est encore loin d'une alliance de premier tour. Et puis un Français qui fonce au guidon de sa moto, Fabio Quartararo, en est à déjà 2 victoires en Grand Prix cette saison.
Après le journal, quel bilan du quinquennat sur la délinquance. Emmanuel Macron sera à Montpellier aujourd'hui où sa police de sécurité du quotidien a été expérimentée. Avec quel résultat ? Je reçois le maire PS de Montpellier, Mickaël Delafosse, dans 10 minutes.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Depuis ce week-end, des créneaux de vaccination sont réservés aux enseignants de plus de 55 ans alors qu'ils retrouvent dans une semaine leurs élèves en primaire. Et même si ce n'est que la première dose, c'est le signe aussi que la campagne de vaccination progresse. Maximilien Carlier a rencontré pour Europe 1 un couple d'enseignants dans la métropole lilloise.
Isabelle et Jean-Yves, 55 et 65 ans, instituteurs et soulagés, vaccinés, enfin à une semaine de la rentrée.
On est quand même en contact des enfants sans cesse. Ça doit être des grandes CM1, CM2, ils ont 10 ans. C'est compliqué pour eux d'avoir le masque plus de 6 heures par jour, quand on compte le temps périscolaire. Et on peut accepter, enfin on ne l'accepte pas vraiment, mais on peut comprendre qu'ils aient envie de mettre le masque sous le nez, quoi. Donc le fait de reprendre la classe vaccinée, ça nous rassure carrément.
Une sérénité retrouvée, oui, mais pas question pour autant d'arrêter les gestes barrières, car ces professeurs des écoles sont en première ligne face au virus.
On côtoie énormément de monde. Sur une journée, je pense que je dois croiser enfants, adultes mélangés, plus de 150 personnes.
Il faudrait d'ailleurs, selon eux, encore accélérer la vaccination du corps enseignant, et il y a même urgence, ras-le-bol des contraintes sanitaires.
Ne serait-ce que pour manger le midi, on doit manger seul, on ne peut pas manger en salle des maîtres, il n'y a plus d'échange avec les collègues.
Toutes les activités extrascolaires sont supprimées, les voyages de classe, la fête de fin d'année, tout ça.
Alors ce sont des détails, certes, confie cet instituteur, mais qui ont leur importance pour donner envie de repartir l'année prochaine. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
À un an de la présidentielle, Emmanuel Macron parle sécurité dans une longue interview au Figaro ce matin, affirmant que sur ce thème comme sur les autres, il présidera jusqu'au dernier quart d'heure. Et on s'arrête ce matin sur un type de violence en particulier.
Et près de 1300 agressions d'élus en 2020, autrement dit 25 en moyenne chaque semaine. Pour y faire face, une formation leur est proposée depuis janvier.
Elle est dispensée par des membres du GIGN ou des négociateurs, comme à Pornic, où notre correspondant dans l'Ouest, Charles Guyard, s'est rendu.
Ça a été « tu vas bientôt mourir » ou « il va t'arriver quelque chose ».
Menaces de mort, insultes et parfois même des atteintes physiques. Et cela se passe partout, en mairie, dans la rue, voire parfois dans la sphère privée.
Vous vous retrouvez chez vous, interpellé. Vous ne savez pas quoi leur répondre.
C'est justement pour savoir gérer ces situations que des formations sont désormais proposées aux élus locaux. Comme ce matin-là, à Pornic, 22 adjoints et maires se mettent en scène dans des simulations organisées par deux gendarmes négociateurs.
Dépêchez-vous parce que j'en ai marre.
J'attendais.
Avant c'était un maire, un homme. C'était mieux que ça, hein.
Quelques rires gênés, attaques sexistes, nervosité, impatience, ils ont tous déjà vécu cela. En 2020, 1276 élus ont ainsi été agressés. En France, c'est trois fois plus qu'en 2019. Et le contexte sanitaire n'explique pas tout. Anthony, l'un des formateurs.
On a des gens qui sortent de grandes villes et qui viennent dans des petites villes avec les mêmes exigences. Tout le monde veut un petit peu tout, tout de suite.
Parmi les conseils sur la conduite à tenir, le dépôt de plainte est vivement encouragé. Une démarche qui laisse néanmoins sceptique.
J'ai déposé des plaintes, puis par derrière, les gens ne sont pas condamnés, quoi.
Alors, il y a eu des plaintes déposées. On attend, on se sent vraiment abandonné par les services de l'État.
Et c'est tout le paradoxe de cette formation, fruit d'une prise de conscience des pouvoirs publics sur le sort des élus quand ces derniers, sur le terrain, partagent le même sentiment d'abandon. Pornic, Charles Guyard, Europe 1.
La politique, pas de porte qui claque, mais pas de grande réconciliation non plus. C'est le résumé en quelques mots du week-end politique. À gauche, les dirigeants de plusieurs partis étaient réunis autour d'une même table samedi, à l'initiative de l'écologiste Yannick Jadot. 3 heures de réunion, tous les participants ont convenu de se revoir. C'est déjà ça, Claudia Bertram.
C'est assez rare pour être souligné. Les gauches se parlent et tous les participants l'ont salué. Mais sans surprise, ils ne parlent pas tous de la même chose. Il y avait même plusieurs niveaux de discussion. D'un côté, la vingtaine de participants top sur 3 points. Un pacte de non-agression, des initiatives communes et des débats sur les programmes. De l'autre, les socialistes et les verts se disent prêts à travailler à un pacte de gouvernement. Pas les insoumis et les communistes qui ont déjà leurs candidats respectifs. L'éventualité d'une alliance rose-verte se dessine. Le patron du PS, Olivier Faure, annonce même un candidat commun en 2022. Prématuré, répond le patron des Verts, Julien Bayou, sur Twitter, et de rappeler la primaire des écologistes prévue en septembre. L'insoumis Éric Coquerel accuse Olivier Faure de faire du forcing pour installer une candidature commune de centre-gauche. Ils se retrouvent tous dans un mois, et entre-temps, chacun va continuer d'avancer ses pions.
Claudia Bertram, du service politique d'Europe 1.
Il est 6h36, une première aide humanitaire essentielle est arrivée à Saint-Vincent la semaine dernière.
Oui, mercredi dernier, la Marine nationale a livré 75 tonnes d'eau à cette île des Caraïbes, dont le vol quand la Soufrière, située au nord, s'est réveillée depuis une semaine et demie. Saint-Vincent, c'est 110 000 habitants sur une île de 344 km². Le reportage sur place de Fanny Marceau pour Europe 1.
Quand on approche de l'île, on ne voit pas le sommet du volcan caché par des nuages gris qui épousent toutes les montagnes alentour. À chaque explosion, il crache des cendres qui retombent en pluie sur la population. Maxime Ryan, bénévole de la Croix-Rouge.
C'est terrifiant parfois. Beaucoup de monde essaie de se mettre en sécurité dans les abris. J'ai beaucoup d'amis et de collègues qui vivent dans la zone rouge et qui ont été évacués vers les abris dans le sud.
Plus de 15 000 personnes ont dû être déplacées, mais malgré la cendre sur leur maison, certains ont refusé de partir. Jérôme Ledlow est policier.
Certains d'entre eux sont âgés, ils ont vécu l'éruption de 1979 et ils se disent on va y arriver. Donc ils décident de ne pas partir.
Le sud de l'île est plus à l'abri. C'est là que le navire de la marine française venu de Martinique dépose sa cargaison humanitaire. De l'eau surtout car les rivières sont pleines de cendres. Le commandant du Ventose, le capitaine de frégate Quentin Vieux-Rochas.
Tout ce que vous pouvez voir ici, hein, c'est des bouteilles d'eau, des packs d'eau, ça représente plusieurs dizaines de mètres cubes sur ce trajet-là. On espère effectivement pouvoir envisager du coup à court terme une seconde rotation.
À Saint-Vincent, l'aide afflue de toute la Caraïbe. Plusieurs îles se sont déjà déclarées prêtes à accueillir des réfugiés. Certaines en revanche exigent qu'ils soient vaccinés contre le coronavirus. À Saint-Vincent, Fanny Marceau, Europe 1.
Les sports, pour terminer ce journal avec les performances d'un Français qui rend la MotoGP de plus en plus populaire.
Oui, 2 victoires en 3 courses. Le début de saison de Fabio Quartararo en MotoGP est tonitruant. À presque 21 ans, le Niçois est nouveau leader du championnat du monde après son succès très net hier au Portugal. Alors, serait-ce le futur champion du monde? En tout cas, ne lui dites pas que c'est la nouvelle star du paddock.
Nouvelle star, on va pas dire ça comme ça. Surtout, voilà, je me sens bien, je me sens en forme, mais je me considère pas du tout comme la nouvelle star du championnat, juste un pilote qui travaille énormément pour réussir à accomplir un rêve. Oui, j'ai vraiment grandi, j'ai pris énormément d'expérience l'année dernière, beaucoup de maturité. Ça a été 3 courses vraiment très importantes pour moi. Et oui, j'ai rêvé l'année dernière, ça s'est super bien passé, donc pourquoi pas briller encore au circuit de Jerez et essayer de briller aussi en France.
Ah, le petit jeune de 21 ans qui monte, qui va de plus en plus vite. 21 ans, Fabio Quartararo au micro européen d'Axel May.
C'était le journal de François Geffrier sur Europe 1, 6h39.
Sébastien Krebs sur Europe 1.
Et c'est le maire de Montpellier qui est mon invité dans le 5-7 en direct ce matin. Bonjour Mickaël Delafosse.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous présidez aussi la métropole Montpellier Méditerranée. Vous accueillez tout à l'heure le président de la République et le ministre de l'Intérieur qui ont choisi votre ville, Montpellier, donc pour un déplacement sur le thème de la sécurité. L'Élysée explique qu'il s'agit d'illustrer les résultats de la police de sécurité du quotidien, cette police lancée par Gérard Collomb au début du quinquennat. Quel bilan vous en faites-vous à Montpellier qui a été ville test sur ce dispositif ?
Effectivement, Montpellier a été une ville test, mais Montpellier, comme beaucoup de territoires, dans ses quartiers populaires, connaît des difficultés de sécurité. Et il faut le dire, ça n'est pas acceptable et il faut être capable d'agir dans ce domaine. C'est la responsabilité de l'État et le dispositif de sécurité du quotidien est une bonne chose. Et en tant que maire, j'ai sous mon autorité la police municipale. Et la question est comment nous travaillons ensemble pour améliorer la sécurité des habitants, des quartiers populaires qui sont souvent, c'est les milieux modestes qui sont victimes de l'insécurité. Et donc comment nous coproduisons une politique de sécurité quand face à des délits qui empoisonnent la vie du quotidien, eh bien il y a une réponse de l'autorité publique.
Mais la réponse actuelle, est-ce qu'elle fonctionne ? Est-ce que ça a eu des effets, ce changement de logique ? Une police qu'on annonçait plus proche des habitants, plus souvent sur le terrain, est-ce que ça marche ?
Ah mais dès que vous mettez des agents publics davantage sur le terrain, c'est plus efficace. C'est pour ça qu'il faut que la police municipale, la police nationale travaillent ensemble. Parce que quand l'espace public, qui est l'espace du commun, qui est l'espace du vivre ensemble, il est occupé par des dealers qui intimident, eh bien là, c'est difficile. Et donc, à Montpellier, nous obtenons un certain nombre de résultats sur une situation qui, avant mon élection, était très dégradée. Mais pied à pied, nous essayons de reprendre. Et le chef de l'État aura l'occasion de visiter un certain nombre de réalisations qui ont permis d'arrêter des gens, de les présenter devant la justice et de les faire condamner.
Je précise que vous êtes entré en fonction à Montpellier l'été dernier, au moment des dernières élections municipales. Vous avez remporté la ville en alliant votre liste du PS à celle des écologistes. Vous aviez demandé des renforts policiers dès votre arrivée à la mairie de Montpellier. Vous les obtenez aujourd'hui. Emmanuel Macron vient faire des annonces chez vous.
Bah écoutez, nous aurons un échange ce midi à ce sujet. Il ne peut pas y avoir
50 policiers supplémentaires.
Il ne peut pas y avoir de sécurité pour les habitants s'il n'y a pas d'hommes et des femmes qui travaillent dans la police. Et donc le chef de l'État annonce 50 policiers supplémentaires. C'est une très bonne nouvelle pour Montpellier. Ça viendra compléter le dispositif que, en tant que président de la métropole, nous allons mettre en place, une police des transports qui sera effective à partir de 2023, le temps de former, pour essayer d'assurer une présence dans tous les domaines pour assurer la protection des habitants. Transport en commun, policiers pour pouvoir enquêter, présence dans l'espace public. Et c'est bien un enjeu de coproduction, la sécurité, entre d'un côté l'État, qui en a une responsabilité, mais aussi une municipalité.
Emmanuel Macron, dans le Figaro ce matin, affirme passer à la vitesse supérieure contre les trafics de drogue, dit-il, en harcelant les trafiquants et les dealers. Est-ce que vous le ressentez au quotidien, dans les quartiers ?
Oui, on voit bien que la doctrine sur le sujet d'emploi de la police nationale est plus forte. Et je le dis, il faut être très ferme face au trafic. Très ferme, parce que qui est fragilisé ? C'est les jeunes qui croient gagner plus d'argent en allant vendre ou qui se laissent détruire leurs études parce qu'ils consomment. Les habitants des quartiers où les trafiquants s'installent. Et donc, il faut être extrêmement ferme. Et je le dis d'autant plus, et j'observe que le chef de l'État partage cette analyse, que quand certains se laissent aller à l'achat d'une cocaïne récréative, eh bien, ils participent aussi à l'insécurité des quartiers populaires. Et donc là, il y a une question de responsabilité, outre une question de santé publique, évidemment.
Emmanuel Macron annonce vouloir lancer un grand débat sur la consommation de drogue. Il y a aussi le Beauvau de la sécurité qui est en cours. Les états généraux de la laïcité annoncés ce week-end par Marlène Schiappa. Ça fait beaucoup de consultations et de grands débats, non ? Est-ce que ça se traduit vraiment dans les actes et dans les actions ?
Non, mais il faut débattre dans une démocratie, c'est bien normal et il faut. Mais là, il faut, il y a des choix à opérer. Sur la question de la drogue, c'est effectivement un enjeu. Il faut qu'on en parle très clairement, parce qu'il y a une réalité, c'est qu'il y a une hausse des trafics, mais qui est aussi liée à une hausse de la consommation. Si aujourd'hui la drogue se vend, c'est qu'il y a des gens qui en achètent. Et ceux qui en achètent doivent bien mesurer qu'ils mettent en danger leur santé, d'une part, et qu'ils fragilisent la vie des habitants où se trouvent les trafiquants. Donc ça, c'est une question de responsabilité. Ensuite, il est clair qu'il faut évoquer les questions de statut des policiers nationaux, leur niveau de rémunération, et que le ministre de l'Intérieur dialogue avec les syndicats. C'est nécessaire, c'est nécessaire. Et enfin, quant à la question de la laïcité, qui est un principe républicain en soi, moi, je nous invite collectivement à la défendre ardemment. C'est une valeur de concorde. Et à Montpellier, nous avons, dès mon élection, lancé une charte de la laïcité à l'ensemble des associations, parce que on doit être très, très ferme sur la défense de ce principe.
Vous avez été le premier maire à lancer cette charte de laïcité qui s'impose à toutes les associations subventionnées par la ville. Vous êtes un maire de gauche, je le disais, socialiste, et vous assumez de parler de façon ferme de ces sujets, de sécurité, de laïcité. Vous trouvez que la gauche est trop faible sur ces sujets ?
Mais la gauche, c'est elle qui a inventé la laïcité en 1905. Ceux qui ont voté la loi de séparation des églises et de l'État siégeaient à la gauche de l'Assemblée. Donc la gauche doit être fidèle à cette valeur. Elle doit être universaliste, elle doit être émancipatrice. Quant à la sécurité, enfin, la gauche, elle est pour la règle, elle est pour la loi, parce qu'elle protège les plus fragiles. Et donc, faire respecter la sécurité, c'est garantir aux plus modestes, aux jeunes à l'entrée d'un lycée, aux personnes âgées qui veulent rentrer chez elles, d'être en sécurité. Et donc, il y a ces débats-là, il faut que la gauche, elle, non seulement elle se les réapproprie, mais qu'elle les mène, et c'est ce que moi, à Montpellier, qui suis un maire socialiste, j'entends porter, parce que la sécurité, c'est la protection. La violence, c'est toujours les plus fragiles qui en sont les victimes.
Maire socialiste qui accueille le président de la République pour lancer sa campagne présidentielle à un an de l'échéance, là, non, aujourd'hui?
Je ne sais pas s'il lance sa campagne présidentielle à Montpellier. En tout cas, que le chef de l'État vienne parler de sécurité à Montpellier, c'est une très bonne chose.
On a tous remarqué le calendrier.
Oui, enfin, vous savez, il faut du temps.
Merci à vous. Merci, Mickaël Delafosse, d'avoir été l'invité du 5-7 ce matin en direct, maire de Montpellier, 6h47.
Europe 1.
Et l'innovation du jour à suivre avec Yannis et Mbida.
Europe 1, Sébastien Krebs.
Il est 6h49 sur Europe 1. Le soulagement pour Mia, la petite fille de 8 ans, enlevée mardi dernier dans les Vosges, a été retrouvée saine et sauve hier matin en Suisse. 5 hommes sont mis en examen pour enlèvement en bande organisée et association de malfaiteurs après ce kidnapping. À 2 mois des élections régionales, ce sondage IFOP pour Europe 1 et la Tribune en Normandie. Le président sortant Hervé Morin, qui mène une liste de la droite et du centre, est à 31% d'intention de vote face à Nicolas Bay du Rassemblement National, 26%. Et puis Roger Federer participera bien à Roland-Garros cette année. À 39 ans, le Suisse va retrouver la terre battue parisienne dans un peu plus d'un mois. Ce sera à vivre sur Europe 1, radio officielle du tournoi. Bonjour Anis Mbida.
Bonjour Sébastien Krebs.
Votre innovation du jour tombe à point nommé, hein, à l'heure où les salons de beauté sont fermés. Vous avez trouvé un robot capable de poser du vernis automatiquement en moins de 10 minutes.
Oui, un robot de manucure. Et ça, je peux vous dire que ça fait longtemps que les fashionistas en rêvent. Avoir des ongles impeccables comme chez l'esthéticienne. Mais quand on veut, en restant tranquillement à la maison, par exemple en prenant son petit-déj, en écoutant Europe 1, par exemple. Eh bien, ça y est, le premier modèle vient d'être présenté. Alors, ça ressemble à une boîte de la taille d'un gros dictionnaire. On met sa main à l'intérieur et un système de caméras va repérer la position de chacun des ongles, leur forme, leur courbure. Et ensuite, il va commencer par appliquer une base, puis deux couches de vernis. Et pour finir, le fameux top coat de finition. Donc quatre couches en moins de 10 minutes par main, avec un petit flux d'air pour être sûr que tout sera parfaitement sec.
Et on peut utiliser n'importe quel vernis ou il en faut un en particulier?
Non, il faut des fioles spécialement conçues pour la machine. Alors, il n'y en a qu'une trentaine de teintes disponibles. Donc, on n'aura pas beaucoup de choix, pas sûr qu'on trouve sa teinte et sa couleur favorite. Il faut aussi noter que la machine se contente de poser du vernis classique, pas de French manucure, pas de paillettes ou pas de dessin à la façon nail art. L'objectif, c'est surtout vraiment de gagner du temps dans l'entretien de son vernis au quotidien.
Et ça coûte cher ?
Pas trop, autour de 350 euros. C'est la start-up Nimble Beauty qui a conçu le robot. Il devrait être commercialisé d'ici 7 ans parce qu'en attendant, il doit être testé chez plusieurs particuliers pour s'assurer qu'il s'adapte bien à toutes les morphologies, à toutes les formes d'ongles. Parce que c'est vrai que la promesse, elle est plutôt belle, avoir une manicure automatisée à la maison. Donc si la machine fait n'importe quoi et qu'elle barbouille les ongles, il risque d'y avoir un petit peu de mal à la vendre.
Effectivement, la machine manucure à installer chez soi, l'innovation du jour avec Anis et Mbida. 6h51. Et nous allons d'abord en Israël ce matin. Bonjour Clotilde Mravko.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qui fait la une de la presse israélienne ?
Eh bien, tous les journaux ont ces mêmes photos de passants sans masque dans les rues israéliennes. Après un an, ce n'est plus obligatoire en plein air, se félicite le journal Ma'ariv. Tout ceci est possible parce que 81% des Israéliens de plus de 16 ans ont été vaccinés, explique Israël Hayom. Mais prudence, rappelle le quotidien gratuit qui note que les masques sont toujours obligatoires à l'intérieur des bâtiments et dans les transports en commun. Depuis quelque temps déjà, on sentait un léger relâchement dans les rues, confie le professeur en charge de la politique contre le Covid-19 au journal en ligne Ynet. « Je suis content qu'on en soit déjà arrivé là », raconte-t-il dans une longue interview. La prochaine étape, selon lui, vacciner les enfants de plus de 12 ans dès le mois prochain, si tout va bien.
Ouais, Clotilde Mravko à Tel Aviv, où on entendait tout à l'heure ces témoignages avec des Israéliens qui se pincent pour y croire, de voir ces images de foule sans masque dans les rues. Direction l'Allemagne, maintenant. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour Sébastien.
Qu'est-ce qu'on lit dans les journaux chez vous ?
Il ou elle, c'est la question à la une ici aujourd'hui. Les Verts vont annoncer qui sera leur tête de liste pour les élections de septembre prochain. Et dans tous les cas, ce sera un très bon choix, commente le journal libéral Die Welt, pour qui les Verts ont compris ce qu'il fallait faire pour avoir du succès en Allemagne. À 23% dans les sondages, il est évident qu'ils vont entrer au prochain gouvernement, peut-être même décrocher la chancellerie. Mais d'abord, il leur faut départager le duo formé entre les deux coprésidents, choisir entre le philosophe Robert Habeck, 51 ans, et Annalena Baerbock, une juriste spécialiste de droit international. Pour le Bild, je cite, « c'est elle qui doit y aller, car à tout juste 40 ans, elle a déjà la détermination et le courage qu'il faut pour le poste de chancelière. Ils vont choisir tous les deux ensemble ce matin, en harmonie », écrit le Süddeutsche Zeitung, qui note que c'est tout le contraire des conservateurs qui se déchirent depuis des jours sur la question.
Hélène Kohl à Berlin pour Europe 1. Nous terminons notre tour du monde aujourd'hui en Pologne avec vous, Marie Le Pulog. Bonjour.
Bonjour Sébastien.
De quoi parle la presse à Varsovie ?
Eh bien, d'un choix très controversé du gouvernement, la nomination d'une ancienne première ministre polonaise, Beata Szydło, membre du parti conservateur droit et justice au pouvoir, au conseil du musée d'Auschwitz, peu appréciée par les autres membres, dont un tiers a dit vouloir démissionner, raconte le quotidien Rzeczpospolita. Je le vois comme une politisation de ce conseil, accuse l'un d'entre eux dans le journal. Le quotidien Gazeta Wyborcza ajoute lui que plusieurs députés ont déposé une motion pour annuler cette nomination. S'il y a des inquiétudes, c'est parce que depuis son retour au pouvoir en 2015, le parti Droit et Justice tient à souligner que les Polonais ont eu un statut de victime pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais, continue Not From Poland, beaucoup accusent le gouvernement de vouloir blanchir le passé en minimisant ou ignorant les situations où des Polonais ont été impliqués dans la persécution des Juifs.
Merci à vous, Marie Le Pulog, depuis Varsovie pour Europe 1. Europe 1. C'est l'information de la nuit qui secoue la planète football. Ce coup de tonnerre au sommet du foot européen. 12 des clubs les plus prestigieux lancent leur propre compétition. Une Super League fermée qui ne plaît pas du tout à l'UEFA qui menace d'exclure ces clubs de toutes les autres compétitions européennes. Toutes les précisions, le récit dès le début du journal de 7h dans le 7-9 de Mathieu Béliard. Il est 7h05. 6h58, très bon réveil avec Europe 1, très belle journée. Mathieu Béliard est installé, c'est le 7-9
presque.
Qui démarre.
Si on est complètement allez, honnête et factuel, presque installé. Comment allez-vous Sébastien?
Très bien,
vous
en pleine forme.
Un bon week-end.
Parfait.
Merci d'avoir réveillé nos auditeurs depuis tôt ce matin, depuis 5h sur Europe 1. Et à demain effectivement, lundi 19 avril 2021. Le monde a changé, on va vous le raconter. Cette prise de parole d'Emmanuel Macron dans le Figaro ce matin. Et pour une fois, ce n'est pas pour parler de la pandémie, mais pour parler de sécurité avec... comme un parfum d'entrée en campagne. À un an de la présidentielle, le président qui promet de tenir son objectif de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires d'ici à la fin du quinquennat. « Je me bats pour le droit à une vie paisible », dit le président, et qui veut aussi lancer un grand débat national sur la consommation de drogue. Il veut harceler les trafiquants, la mère de toutes les batailles sur la sécurité. L'édito politique avec Catherine Ness est à 7h50. Le président de la République, accompagné de Gérald Darmanin, qui se rendra à Montpellier aujourd'hui pour parler sécurité du quotidien sur Europe 1. Ce matin, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement, il répondra aux questions de Sonia Mabrouk. Et puis, pour se changer les idées cette semaine... de la musique en fin de matinale, juste avant de retrouver le meilleur de Canteloup, on écoute le monde chanter. Le groupe London Grammar que vous entendez, Angèle Châtelier va nous présenter leur nouvel album, Californian Soil. Ce sera aux alentours de 8h45, mais j'avais envie de quelques notes de musique pour démarrer ce matin. Très bon réveil à toutes et à tous. 6h59 sur Europe 1, Laurent Cabrol est avec nous. C'est l'heure de la météo, bonjour Laurent.
Oui, bonjour Mathieu. Et la météo se niche dans les niches, c'est-à-dire que nous avons une petite niche de poche de froid aujourd'hui, j'avais dit une poche de froid, oui c'est ça, qui se situe à la Sologne, le Beauvaisis, la région d'Anverieux, du Luxeuil. Nous avons des températures négatives, mais dans l'ensemble elles sont bien remontées quand même ces températures, et ce sera le cas une grande partie de la semaine. Alors une petite inquiétude pour la fin de semaine, on se demande si ça va durer, c'est encore... les modèles ne sont pas totalement d'accord entre eux, mais en principe nous allons vivre une semaine de douceur, une semaine de temps sec avec des nuages, attention, les nuages ne sont jamais absents du programme, et nous aurons donc pratiquement partout à un moment ou l'autre de la journée et à un moment ou l'autre de la semaine des passages nuageux, notamment demain mardi où toutes les côtes atlantiques seront sous les nuages, mercredi ce seront les régions de l'Est, aujourd'hui on peut dire que pratiquement les éclaircies seront là, belles éclaircies avec un temps un peu plus agité sur le massif alpin.
Merci beaucoup Laurent Cabrol.